le 7-9.
Bienvenue sur Inter. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 4 février. Bonjour Laurence Thomas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin sur fond de Covid et de tensions diplomatiques. Nous appellerons dans un instant notre correspondant tout près du nid d'oiseau, le stade olympique. Les autres titres, Laurence.
La politique, avec l'interview de Marine Le Pen au Figaro, elle fustige son rival Éric Zemmour à la veille d'un duel de meeting à l'extrême droite. Les suicides à répétition dans la police, un début d'année catastrophique, des chiffres nettement supérieurs à ceux observés habituellement. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, reçoit aujourd'hui syndicats et associations de policiers. Et puis enfin à Lyon, le festival international du film sur les handicaps.
Les invités et rendez-vous d'Inter ce matin. À 7h45, le débat éco, Thomas Piketty et Dominique Seux. Ce matin, des profits records pour les entreprises françaises du CAC 40. Et après, et puis à 8h20, le grand entretien de la matinale avec le démographe et historien Hervé Lebras. Il publie « Le grand enfumage, populisme et immigration dans 7 pays européens ». C'est aux éditions de l'Aube. J'attends vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter.
Il sera 13h à Paris, 20h à Pékin, coup d'envoi des Jeux Olympiques d'hiver en Chine. Comme il y a 14 ans, l'étonnant stade national de Pékin, surnommé le nid d'oiseau, servira d'écrin à la cérémonie d'ouverture. Mais l'événement cette année sera très particulier. Bonjour Sébastien Berriot, vous êtes le correspondant de France Inter à Pékin. Ces Jeux sont malheureusement conditionnés par des conditions sanitaires draconiennes en raison, Sébastien, d'une reprise de l'épidémie de Covid dans le pays.
Oui, effectivement, bonjour. Cette cérémonie d'ouverture, c'est certainement le moment le plus sensible à gérer sur le plan sanitaire. C'est l'une des seules fois où les participants aux JO vont côtoyer des spectateurs qui, eux, ne sont pas dans la bulle sanitaire. La priorité absolue, c'est donc de faire en sorte que les deux publics ne se mélangent pas dans cet immense nid d'oiseau qui a une capacité de 91 000 spectateurs. Les contrôles à l'entrée sont impressionnants, hein. Je suis en train de les vivre en ce moment. Les invités, munis de leurs nombreux tests effectués ces derniers jours, arrive très tôt, dès la mi-journée, pour une cérémonie qui commence seulement à 20h. L'attente va être très longue, mais le spectacle s'annonce grandiose, avec 3000 acteurs. C'est la première fois dans l'histoire des JO qu'un même stade accueille ainsi une cérémonie d'ouverture à deux reprises, puisque ce nid d'oiseau avait été construit, rappelons-le, pour les Jeux d'été de 2008.
Alors on sait aussi, Sébastien, que plusieurs pays ont décidé d'opter pour un boycott diplomatique de ces Jeux Olympiques pour protester contre la situation des droits de l'homme en Chine. Mais il y aura quand même de nombreux chefs d'État.
Oui, ce soir, alors évidemment, l'absence de Joe Biden et de plusieurs dirigeants de pays anglo-saxons ne passera pas inaperçu. Hein. George Bush était présent ici en 2008, mais on ne peut pas dire que ce boycott diplomatique va vraiment gâcher la fête. Le casting de la cérémonie est quand même assez relevé, avec une trentaine de dirigeants, de Vladimir Poutine au président argentin, en passant par le président de la Pologne, seul dirigeant européen présent. Il y aura aussi le secrétaire général de l'ONU. La France, elle, ne suit pas le boycott diplomatique, mais elle ne sera pas représenté à la cérémonie. L'ambassadeur de France ne fera pas le déplacement en raison des mesures sanitaires jugées trop contraignantes.
Sébastien Berriot, à bord du stade olympique à Pékin. Côté sportif, 88 athlètes vont représenter la France. On espère une quinzaine de médailles. Le biathlon est toujours le grand pourvoyeur de médailles. À suivre les stars du freestyle et des bosses Tess Ledeux et Perrine Lafont. Le ski alpin tricolore n'est pas en très grande forme, mais on peut espérer quand même quelques médailles avec Alexis Pinturo et la porte-drapeau Tessa Worley. Cette dernière est pour le moment très concentrée sur la cérémonie d'ouverture, mais à quelques heures de ce moment important, c'est encore un peu flou, Tessa Worley avec Guillaume Batin.
Tout dépendra en fait des athlètes qui souhaitent assister à la cérémonie. C'est vraiment un choix personnel. C'est vrai qu'il y a de la route, il y a de la logistique, il y a pas mal de choses qui font qu'il peut y avoir une petite perte d'énergie. Donc je comprends tout à fait. Il y en a qui courent aussi la veille ou même le lendemain ou le surlendemain. Donc voilà, il faut penser un peu à tout ça. Il y a aussi un côté restrictif au niveau du nombre de personnes qui pourront marcher pendant la cérémonie. Ça, c'est assez nouveau par rapport aux autres années. C'est dû au Covid, etc. Donc, bon, mais voilà, c'est comme ça. C'est une édition qui est très particulière et on s'en souviendra. J'espère que le fait que la délégation soit petite, on arrive quand même à créer vraiment une belle énergie et que voilà, ça fera une très belle cérémonie. Mais en tout cas, je pense que la sensation de fierté de porter le drapeau et d'entrer dans le stade sera, sera tout aussi belle.
La skieuse et porte-drapeau française, donc Tessa Worley. Il aura fallu plus de 6 heures d'intervention pour récupérer l'ensemble de l'équipage du tanker mauricien échoué hier à La Réunion, alors que la région était balayée par le cyclone Batirai. Les 11 marins ont été évacués et il n'y a pas de risque de pollution par hydrocarbures, car ce pétrolier naviguait à vide, a indiqué Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer. Côté intempéries, l'alerte rouge cyclonique est désormais levée, mais les risques d'inondations et de coulées de boue sont encore là et les habitants appelés à rester chez eux, 72 000 foyers, sont sans électricité. Une course contre la montre au Maroc pour sauver le petit Ryan. L'enfant de 5 ans est bloqué dans un puits asséché où il est tombé il y a plus de 48 heures. Problème, le diamètre de ce puits n'est que de 45 cm. Des travaux de forage sont en cours pour sauver l'enfant.
France Inter, 7h05, Laurence Thomas. Marine Le Pen, Éric Zemmour, la guerre est déclarée.
Interview assassine ce matin dans le journal Le Figaro de la candidate du Rassemblement National. Elle fustige le communautarisme de son rival qui est, selon elle, entouré de catholiques traditionnalistes, de païens et même de quelques nazis. Marine Le Pen qui tente le tout pour le tout donc avant ce week-end et la grande bataille des meetings. Car au même moment auront lieu demain la convention présidentielle de Marine Le Pen à Reims et un grand meeting à Lille d'Éric Zemmour, Élodie Forêt.
Entre les deux candidats, une guerre d'images et de chiffres. Côté RN, quelques 3000 militants prévus à Reims. Côté Zemmour, déjà 8000 inscrits, vante Jérôme Rivière, fraîchement rallié.
Je pense pas vraiment qu'il y ait un match, c'est pas tout à fait les mêmes divisions.
Ligue 1 pour nous, Ligue 2 pour le RN, poursuit Jérôme Rivière qui se réjouit de cette affluence spontanée. 100 bus affrétés par le parti, dit-il.
Ça traduit un enthousiasme, c'est parce que le diagnostic que pose Éric Zemmour est bien celui qu'attendent les Français. Ils ont envie de venir le voir, de venir l'entendre, de venir l'écouter, de partager ce moment d'espérance avec lui.
Réplique de Marine Le Pen, les grands meetings n'ont jamais fait les victoires. Son conseiller spécial Philippe Olivier a un exemple tout trouvé, les campagnes de Jean-Marie Le Pen.
On remplissait des salles, des meetings comme en fait Zemmour, on en a fait des dizaines, peut-être même des centaines, on a même rempli le stade Vélodrome, et pour autant on n'a pas dépassé 15%. Donc l'affluence dans les meetings, c'est sympathique. Et ça ne fait pas une élection.
Et c'est donc grâce au fond que le RN entend bien se démarquer avec la présentation de son projet présidentiel. Mais à Lille, Éric Zemmour marque de près sa rivale. Le candidat devrait parler pouvoir d'achat, jusque la totem de Marine Le Pen.
Il le dit Forêt. 11 suicides en janvier au sein de la police nationale. Un choc pour la profession. Le taux de suicide est de 41% plus élevé que dans le reste de la population active en France. Mais les causes liées au métier de policier ne sont que très peu reconnus, souvent considérés comme d'origine privée. Ce sera l'un des enjeux de la réunion de ce soir avec le ministre de l'Intérieur. Il recevra syndicats et associations spécialisées sur ce fléau dans la police. Gérald Darmanin a déjà annoncé ces derniers jours vouloir recruter une vingtaine de psychologues et la création surtout de 2000 sentinelles. Il s'agit de policiers formés à la détection des signaux de détresse chez leur collègue Emmanuel Leclerc.
Christophe raconte qu'en 27 ans de carrière, il a vu plus de collègues mourir après s'être suicidés que lors d'interventions.
À chaque fois, j'étais comme tout le monde en fait, j'avais rien vu.
Il y a un peu plus de 2 ans, Christophe participe à la création de l'association PEPS SOS Policiers en Détresse. Cette semaine, il était à Calais, opération de sensibilisation le jour, tout en continuant à répondre aux urgences la nuit.
En rentrant à minuit, on a eu une urgence, donc on est resté debout jusqu'à 2h30, 3h du matin. En fait. C'était une collègue qui avait un trop-plein de tout, que ce soit pro ou perso, et elle avait besoin d'évacuer et de savoir qu'elle n'était pas seule.
Philippe, lui, a rejoint récemment le commissariat de Provins en Seine-et-Marne. Brigade de nuit, cet ancien permanent de l'ANAS, l'association de l'action sociale du ministère de l'Intérieur, vient d'effectuer sa 2e formation sur la prévention du suicide.
Parler du suicide, on a toujours ce sentiment qu'on va pousser la personne à passer à l'acte. Et ce qui n'est pas vrai, ce qui est important dans ce genre de formation, c'est de comment évaluer le risque de passage à l'acte, quels sont les mots à employer, ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire.
Les formations, la création de sentinelles, c'est très bien, confié hier soir un officier. Mais si déjà les collègues arrivent à parler entre eux de ce sujet dans les commissariats avec leurs tensions qui s'accumulent au fil des années, qu'il y ait une vraie libération de la parole, ce serait formidable, mais c'est très loin d'être gagné.
Emmanuel Leclerc, on les voit souvent au bord de la mer, ces maisons aux volets fermés qui attendent les beaux jours pour accueillir les propriétaires des maisons secondaires, inoccupées une bonne partie de l'année, mais qui peuvent aussi se retrouver parfois squattées. Le tribunal de Lorient a rendu hier sa décision. Un saisonnier qui avait trouvé refuge dans la maison de campagne d'une femme de 86 ans à Belle-Île a été condamné à une amende de 1 000 euros avec sursis. L'homme avait pu être rapidement expulsé des lieux grâce à une procédure express mise en place il y a un an, Steven Goyer.
Une plainte de la propriétaire au commissariat, une validation du préfet sous 48 heures avant l'intervention des policiers. C'est ce qui s'est passé pour Pascal Bordier. 2 semaines après son arrivée dans une maison de Bangor à Belle-Île, son avocate Julia Delalaise.
Monsieur Bordier, qui était saisonnier à l'époque et qui dormait sous une tente, a fait le choix d'entrer dans cette maison qui était laissée à l'abandon.
À Belle-Île, les résidences secondaires représentent près de 60% des habitations et la situation n'enchante pas vraiment les locaux.
C'est pas évident pour les gens sur place de voir toutes ces résidences secondaires qui sont fermées, des volets fermés toute l'année, quand les personnes ne trouvent pas de logement.
Mais depuis un an, aux yeux de la loi, la résidence secondaire bénéficie de la même protection qu'une maison occupée à l'année.
Il n'y a pas de raison de penser que parce que c'est une résidence secondaire, elle a vocation à être moins protégée qu'une résidence principale.
Guillaume Kasbarian, député LREM et le rapporteur de la loi rentré en vigueur le 1er janvier 2021, il se félicite du bilan national dressé en un an.
196 victimes ont fait la demande au préfet donc, d'utiliser cette procédure express. 172 ont pu en bénéficier et ont pu donc retrouver leur domicile grâce à cette loi.
La procédure ne peut cependant pas être enclenchée dans le cas d'un locataire mauvais payeur ou lors d'un contentieux familial.
L'actualité à l'étranger, la crise ukrainienne et cette accusation du porte-parole du Pentagone.
Selon la défense américaine, Moscou serait en train de préparer de fausses vidéos pour justifier une agression militaire contre l'Ukraine. Des images de propagande violente avec des cadavres et des acteurs jouant le rôle de personnes en deuil. Autrement dit, une mise en scène qui laisserait penser que l'Ukraine attaquer la Russie. Et si le cinéma aidait à voir le handicap autrement, c'est le pari du Festival international du film sur les handicaps qui se tient jusqu'à mercredi à Lyon. L'événement Alice Cachaner se veut éducatif et surtout festif.
Pas question de proposer une sélection de films larmoyants ou lugubres sous prétexte qu'ils parlent de handicap. Ces 83 fictions, documentaires et courts-métrages, ce sont avant tout des histoires, des scénarios qui disent quelque chose de nous, insiste Katia Martin Maresco, fondatrice et présidente du festival.
C'est tout sauf des films médicaux qui transmettent une tristesse. Au contraire, c'est pas un festival où on vient voir des curiosités, vous voyez ce que je veux dire ?
Des films drôles, touchants, poétiques, parfois surréalistes, venus du monde entier.
C'est un film lituanien qui s'appelle Butterfly Art. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est très différent des autres. Il a le cœur qui pousse en dehors de sa poitrine, en fait.
Le festival est ouvert à tous, mais de nombreuses projections seront proposées au public scolaire. Une façon de lutter contre les stéréotypes.
Ils sont très étonnés de voir des petits courts-métrages où il y a des gamins de leur âge qui sont extraordinaires, qui ont des performances sportives. Ils nous disent pendant le débat qu'ils ne s'attendaient pas à voir des films sur le handicap comme ça, aussi sympa, aussi chouette. Là, c'est tout gagné. Ça ouvre un petit peu les horizons, quoi.
Après son escale à Lyon, le festival partira sur les routes, en Moselle, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi à l'étranger, en Belgique ou encore au Brésil.
Reportage d'Alice Cachaner.
Merci Laurence Thomas. Secret d'info dans 3 minutes, Vincent Bolloré, super influenceur.